Vous écoutez Bac FM, il est 18h30 et avec nos invités du soir, tout de suite nous partons à la découverte d'une exposition exceptionnelle sur la franc-maçonnerie nivernaise organisée par le musée de la faïence et des beaux-arts de la ville de Nevers. C'est disponible jusqu'au 31 décembre. Je suis en compagnie de Françoise Hervé, de Marie-Lise Chevalier, de Daniel Citerne. On en parle tout de suite avec eux. Allez, Bac FM, on est parti direction le musée de la faïence et des beaux-arts pour une exposition qu'on va évoquer avec mes invités. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette exposition, vous l'avez lu aussi certainement dans certains journaux locaux, elle va arriver aussi. J'ai cru entendre dans un très beau magazine national. On aura peut-être l'occasion d'en parler en fin d'émission. En tout cas, c'est des petites rumeurs que j'ai entendu parler. Pour cela, je reçois Françoise Hervé, élue à la culture de Nevers. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Lise Chevalier, chef de service direction de la culture et du développement culturel, pôle patrimoine et transmission. Bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Citerne, vous êtes président de l'association Profane Faïence 6000. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un acteur majeur de cette exposition, si je puis dire.
Oui, à l'origine.
À l'origine.
C'est moi qui ai voulu avoir cette initiative, et grâce à Madame Chevalier.
Exactement.
Mon rêve, notre rêve, parce que c'est pas moi personnellement, c'est notre rêve a pu se réaliser.
C'est réalisé depuis le 9 novembre. Cette exposition elle est disponible jusqu'au 31 décembre. Elle s'appelle « Franc-maçonnerie en Nivernais, histoire et symbole ». C'est une expo qui est à découvrir donc au musée de la faïence et des beaux-arts depuis, je le disais, le 9 novembre jusqu'au 31 décembre. Il reste encore quelques jours pour aller découvrir cette exposition. On va retrouver de la céramique au décor maçonnique, mais également des documents rares historiques. C'est ce qu'on peut retrouver dans cette expo, mais pas que. On va revenir sur l'objectif, bien sûr, de cette expo. Comment est aborder ce thème aussi qui peut paraître assez étranger pour beaucoup de personnes, c'est cette volonté aussi de l'expliquer au plus grand public, j'imagine. On va revenir dessus. Juste avant, on va commencer par la genèse de cette expo. Comment elle est née, finalement, cette expo ?
Alors, l'exposition est née d'une proposition de l'association Faïence 6000 qui met en valeur le patrimoine maçonnique nivernais, qui s'est tournée vers les élus de la ville de Nevers, vers Françoise Hervé en particulier, pour finalement relancer un sujet d'exposition qui était envisagé depuis quelques années et puis c'est tombé au bon moment, je dirais, puisque le musée, vous le savez, est ouvert jusqu'en fin d'année, cette année, et donc on avait cet espace de temps pour travailler et proposer cette exposition.
Alors justement, vous avez évoqué l'association Profane Faïence 6000. Vous en êtes le président, je le disais tout à l'heure, Daniel Citerne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement cette association, qu'est-ce que c'est ?
Ben, cette association, elle est née de suite à l'exposition 2000. Enfin, elle a été montée en 1996. Maçonniquement, c'est 5000. Mais voilà. Et on avait décidé de faire... Enfin, l'ancien président et le groupe qu'ils étaient, qui étaient effectivement des maçons, puisque c'est une association profane, mais uniquement les membres sont tous sœurs ou frères.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer pour les personnes qui nous écoutent, parce que ça peut paraître des termes assez étrangers, ça peut paraître relativement obscur pour plusieurs personnes qui ne comprennent pas forcément ce que vous évoquez. Est-ce que vous pouvez essayer de vulgariser un petit peu, entre guillemets, ce propos pour qu'on comprenne concrètement ?
Ça va être mon rôle, je pense, de toute cette interview, parce que c'est très difficile, déjà d'une part, et encore une fois, je remercie, d'organiser une exposition où il y a 22 loges et 7 obédiences, parce que la franc-maçonnerie est divisée. Alors, je parle de sœurs, c'est une dame qui rentre en maçonnerie.
D'accord.
Elle est initiée, elle passe du monde profane, c'est-à-dire de la vie civile, à la vie maçonnique. Et donc, elle est initiée et elle devient sœur, et pour un homme, il devient frère. Voilà, n'est-ce pas ? Et donc, à partir de ce moment, quatre saints frères ont décidé de faire une collection. Et ils sont spécialisés dans les poteries, les faïences du XVIIIe siècle. Alors, il y avait un avantage, c'est que les faïences du XVIIIe siècle, c'était uniquement des faïences symboliques représentant, disons donc, les loges et les outils et l'équipement pour pouvoir faire son parcours.
Est-ce qu'on peut expliquer les loges, justement, comment elles sont organisées? Il y a différentes loges.
Alors, il y a en France, en Europe, je dirais, qu'il y a sept obédiences. Et ces sept obédiences sont présentes dans le département. Chaque
de la Nièvre, hein, vous,
de la Nièvre, dans le département, ici, en Nivernais, je dirais, oui. Et donc, chaque obédience travaille aussi à un rite. Hein, ils travaillent à un rite qui est très important. Et chaque obédience a des ateliers, des loges, ce qu'on appelle des loges, où les sœurs et les frères se réunissent et travaillent.
Et c'est-à-dire qu'un frère et qu'une sœur ne peut pas faire partie de plusieurs loges?
Si,
c'est possible.
Si, c'est possible. C'est tout simplement, il faut que tout soit expliqué. Parce que là aussi, il y a des différences à propos du rite.
D'accord.
Donc, ils ne travaillent pas tous de la même manière, mais on a tous le même but. Le même but, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la franc-maçonnerie universelle. Et je suis très heureux de cette exposition. Parce que j'espère de tout cœur, franchement de tout cœur, que cette exposition permettra de fédérer d'abord tous les sœurs et maçons du département et les sept loges. Et ça sera déjà quelque chose. Parce que c'est comme ailleurs. On est profondément touché par la civilisation moderne. Voilà.
Vous avez parlé tout à l'heure en introduction de rêves qui se réalisaient pour vous. J'imagine à l'image de beaucoup de personnes qui se retrouvent dans votre discours. Ouais. Votre volonté première, c'est ça, c'est de fédérer cette franc-maçonnerie. Mais où aussi, est-ce qu'il y a cette volonté quand même d'expliquer au grand public qui ne font pas partie de cette organisation, d'essayer de comprendre pourquoi elle existe et comment elle fonctionne?
Et oui, et comment on y rentre, comment on y fait, c'est exactement ce but-là. Ce but, c'est d'expliquer ce qu'est véritablement la franc-maçonnerie et ne pas avoir cette image où on représente les francs-maçons comme politiquement, religieusement. Non, c'est la fédération. On travaille pour l'universalité, hein, et pour expliquer exactement ce qu'est la franc-maçonnerie.
Comment vous l'expliquez justement qu'il peut y avoir une représentation politique parfois de cette organisation?
C'est normal. Nous sommes des êtres humains. Donc chacun ses possibilités, et c'est ça qu'il doit faire, parce qu'un maçon, une fois qu'il est rentré, il est plus profane, il est initié, et il passe, parce qu'on appelle aussi, il faudrait là aussi vous expliquer, de la porte basse pour aller vers la lumière. Il a un chemin, c'est la construction de son temple de l'intérieur, vous comprenez? C'est la temple. Donc dans mon intérieur... J'ai pas expliqué à quelqu'un de quel parti politique je fais, de quelle religion je fais. L'essentiel, c'est de moi, c'est de me construire. Je construis mon temple, et ensuite, c'est pour ça déjà au niveau de l'apprentissage, et au niveau du compagnonnage, eh bien je le remplis. Une maison sans meubles, c'est quoi? C'est juste un toit. Eh bien, la franc-maçonnerie, c'est ça, il faut d'abord construire le temple. C'est pour ça qu'on considère aussi la franc-maçonnerie, et ça c'est une erreur, mais entre la maçonnerie coopérative et la maçonnerie opérative, on est construit, tout se construit comme ça, par superposition, par copier-collage. Or, c'est pas du tout la même signification. On copie tout, c'est dans le domaine religieux. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile, parce que vous avez des loges qui travaillent, qui acceptent les femmes. Vous en avez d'autres qui ne les acceptent pas. C'est le phénomène de la mixité.
Et là encore, les différences que vous évoquiez tout à l'heure et les manières de procéder selon les loges qui peuvent varier.
Voilà. Une sœur peut très bien faire partie, en particulier du DH, qui est l'obédience la plus reconnue pour sa mixité. Maintenant, il y en a plusieurs. Et puis, cette sœur ne pourra pas rentrer, par contre, dans d'autres loges masculines. Parce qu'il y a des loges masculines qui ne pratiquent pas la mixité. Et il y a des sœurs qui fréquentent la grande loge féminine de France, qui elles aussi, bon, eh bien, ne pratiquent pas la mixité, c'est-à-dire elles ont le droit, eux, de recevoir des frères, mais les frères ne peuvent pas faire partie de cette loge.
Et dans un monde où il y a une constante évolution, quand même, est-ce que justement ces loges qui ne pratiquent pas la mixité, entre guillemets, est-ce qu'on les dénonce, on les explique, comment on procède justement?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions. Il faudrait raconter l'histoire du géo, comment il est passé
à la mixité. C'est pas un peu dommage,
de géographie, de passer à la mixité. Mais je veux dire qu'il y a des évolutions. Et tout ça, c'est en fonction du rite. Un rite, normalement, un rite n'évolue pas. Comme il y a une expression qu'on dit, un maçon libre dans une loge libre. C'est très beau, mais c'est pas vrai. La maçonne ou le maçon n'a qu'une chose. S'il se sent pas bien, eh bien, il se démet. C'est-à-dire qu'il se démissionne et puis va retrouver autre chose. Mais le grand problème que nous avons, nous, à l'heure actuelle, c'est pour faire du recrutement, c'est pour expliquer, il faut une bonne marraine, il faut un bon parrain qui explique exactement ce qu'est la loge où il veut rentrer, où il veut l'emmener. Et que la fin, il se présente à son parrain ou à sa marraine et pas en lui disant, moi, ça ne me plaît pas du tout, je change de voie. Ça, c'est comme celui qui voudrait faire charcutier, et puis en fait que ses parents le mettent, je sais pas, moi, chaudronnier. Ouais. Au bout d'un moment, il va avoir de sérieux problèmes.
Bah, puis maçon, charcutier, chaudronnier, ça fait un sacré emploi du temps quand même à la semaine.
Et ça aussi, ça, c'est un problème. Bon, le problème que nous avons pour le recrutement, c'est aussi l'histoire du temps. Et puis, est-ce qu'on est capable d'expliquer cela aux jeunes?
Alors justement, alors là c'est très intéressant ce que vous dites, il y a beaucoup de termes aussi, c'est vrai que ça peut paraître très lointain pour beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ce sujet ou qui ne le connaissent tout simplement pas, mais justement comment cette exposition elle a été construite pour qu'on puisse le faire comprendre par le plus grand nombre? Comment vous avez travaillé justement à ce que ce sujet-là soit assez explicite?
Alors, au sein de l'équipe du musée, on a porté un regard en fait naïf sur le thème, puisque nous étions naïfs tout simplement, ouais, ne connaissant pas initialement en profondeur le sujet.
Alors, est-ce que c'est une volonté justement, quand on a une proposition comme celle-là, de ne pas s'intéresser en amont et d'attiser finalement la curiosité pour construire l'exposition, ou est-ce qu'on se renseigne quand même un petit peu avant?
Oui, non, bien sûr. Alors, il y a quand même eu beaucoup de travail. Une fois que le sujet d'exposition est décidé, en fait, là, on se jette à l'eau, on lit beaucoup de livres, et puis l'équipe du musée aussi fait appel à d'autres institutions culturelles de la Nièvre, les musées, la médiathèque de Nevers, bien sûr, les archives départementales, ouais, pour les solliciter, savoir ce qu'ils pouvaient avoir comme objet, comme document sur le thème. Puisque le parti pris, ça a été donc de parler de la franc-maçonnerie dans la Nièvre, en ayant finalement la matière disponible sous la main, mais en élargissant finalement de manière à parler de la franc-maçonnerie en général, puisque c'est un thème qui est peu connu, qui suscite beaucoup de questions, et donc où il faut vulgariser effectivement.
Oui, bien sûr, avec un travail d'archives, vous le disiez, collaboration avec différents musées, avec il y avait cette volonté d'amener aussi peut-être même des pièces d'autres régions aussi, d'autres lieux.
Alors on s'est focalisé sur la Nièvre. C'est un moyen à la fois de maîtriser un peu plus le sujet, de le circonscrire, parce que finalement, parler de la franc-maçonnerie en général, c'est tellement vaste. Ouais. À un moment, il faut faire un choix. Ça permet d'avoir un ancrage local aussi. Et puis, je crois, du coup, d'impliquer différents acteurs dans le territoire. On aurait pu faire un sujet plus large, il aurait fallu plus de temps, peut-être un espace plus grand, etc. Mais comme on travaille en lien avec l'association Faïence 6000, qui a cette vocation à rayonner sur le territoire de la Nièvre, ça paraissait entièrement cohérent.
Oui. Alors, on rappelle qu'on évoque cette exposition qui s'appelle Franc-maçonnerie en Nivernais, histoire et symbole. Cette exposition, elle parle de la franc-maçonnerie en Nivernais, mais est-ce qu'elle parle avant tout quand même de l'histoire de la franc-maçonnerie nationale? Vous avez parlé un petit peu même européenne tout à l'heure. Ça parle avant tout de cette histoire. Elle est peut-être divisée même en deux parties. Expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie pour ensuite se diriger vers la franc-maçonnerie en Nivernais comme voilà, le titre de cette expo.
Je pense que d'abord la première chose, c'est d'abord donner une autre image de la franc-maçonnerie telle qu'elle est expliquée. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Et effectivement, Moi, je me suis bien régalé vendredi soir où il y avait des gens qui posaient des questions, mais qui étaient incroyables. Et, comme par exemple, pourquoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en l'an 6000, hein, on a avancé de 4000, voilà. Et toutes ces explications, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est qu'un franc-maçon?
Oui, parce que la base, elle part de là, déjà.
Et oui, c'est ça. Et puis de se dire, moi, je veux ce que je voudrais, un petit peu, c'est une façon imaginée que j'utilise, c'est un petit peu construire l'être de Vitruve. C'est-à-dire l'homme qui est bien constitué, qui est dans un bon tonneau, et puis qui remplit. Alors, la première base, c'est construire son temple intérieur, et puis il faut le remplir. Donc, il faut rechercher la connaissance.
Ça rejoint la maison sans meuble de tout à l'heure.
Exactement.
Vous avez vu?
Exactement. Et c'est de remplir avec des connaissances. Alors, aussi, le problème, c'est qu'il faudrait que celui qui travaille toute la journée sur un chantier, il sera pas, disons, comment je veux dire, coopté pour venir en franc-maçonnerie. Et c'est ça qui est fort dommage, parce qu'il serait...
Pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce qu'il ne se sent pas capable, il ne se sent pas capable, il n'a peut-être pas l'intelligence, c'est lui qui le dit. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on fasse. On peut regarder dans les loges. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est des professions libérales, c'est les enseignants en particulier. Ça y fait, ça joue.
Est-ce que le rôle aussi du musée dans la construction de cette exposition, c'est de trouver la juste limite entre de ne pas tomber dans la propagande et de tomber dans une expo qui va être recrutement entre guillemets et l'explication et le côté historique finalement de cette organisation?
En fait, on a conçu cette exposition donc d'un point de vue extérieur. Donc, c'est-à-dire vraiment dans cette démarche d'expliquer un peu le béaba. C'est un gros travail de synthèse, en fait, de faire ça. Parce que c'est un sujet très complexe qu'on a essayé de résumer. Mais en fait, au fur et à mesure de l'exposition, on rentre dans la complexité du sujet. C'est-à-dire qu'après avoir exposé ce qu'est la franc-maçonnerie, les obédiences, les loges, etc., ouais. L'histoire de la franc-maçonnerie, on va ensuite rentrer dans l'univers des symboles, qui est déjà une chose assez compliquée. Et puis dans une troisième partie, on s'interroge sur les relations entre la franc-maçonnerie et la société. Et donc là, on rentre sur un sujet qui est plus complexe, parce que bien sûr, on peut... C'est aussi de ce lien qu'existent les préjugés, que naissent les préjugés sur la franc-maçonnerie.
Ouais, parce qu'il y a une volonté de casser ces stéréotypes aussi, ces clichés que peuvent avoir le grand public sur une organisation comme la franc-maçonnerie. Ouais.
C'est surtout ça. Moi, lors des visites, j'ai demandé à ce que le frère du Grand Orient ne vende pas le Grand Orient.
Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce qu'est le Grand Orient?
Le Grand Orient est une obédience. Une obédience, c'est ce qu'on appelle le géo, qui est rentré dans le langage. Bon, le Grand Orient est une obédience, voilà. Et bon, les frères, ils peuvent, mais c'est pas le rôle de la. Ils présentent la maçonnerie telle que la maçonnerie universelle. Moi, qui suis de la Grande Loge de France. Je parle pas et je ne vende pas la Grande Loge de France. Parce qu'on ne peut pas discuter avec quelqu'un, avec un profane, en parlant du Géo, de la Grande Loge de France ou du DH et de tout. C'est trop vaste parce qu'il faut leur présenter l'obédience et le rite.
Combien de temps ça prend à présenter un propos comme celui-là, une organisation comme celui-là?
Nous, ça fait. On a travaillé dessus, j'ai commencé à travailler il y a 5 ans pour essayer de construire
Cette exposition-là?
Cette exposition-là. Et je me rends compte aussi qu'on n'est pas. Heureusement qu'il y a d'abord. Je voudrais bien remercier monsieur le maire de Nevers, Denis Thuriau, parce que c'est quand même grâce aussi à lui que s'est réalisé ce projet. Ça, c'est très important à dire. Et puis, remercier tout le personnel du musée, madame Françoise Hervé, Parce que des supports, vous savez, c'est comme partout. Hein, tout le monde veut organiser, mais il faut trouver les bras.
C'est une première en Nivernais, une exposition sur la franc-maçonnerie
nivernaise. Non, c'est la deuxième. Il faut dire que en France, il a dû y en avoir, je crois, 4 ou 5. Et c'est la première.
Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, finalement, une exposition comme celle-là.
C'est exceptionnel. La première exceptionnelle a eu lieu à Montluçon en 1990 sur les faïences, qui était magnifique, mais que de la faïence. Ensuite, il y a eu Toulouse. Mmh. Ensuite, et puis en 2000, il y a eu Nevers, le Palais Ducal. Mais c'était que de la faïence.
Mmh, mmh. Alors cette exposition, elle met la Nièvre aussi en valeur, voilà, par finalement une organisation. Si je me tourne vers vous, finalement, Marie-Lise, qu'est-ce que vous avez découvert dans cette exposition qui rend finalement cette franc-maçonnerie nivernaise différente des autres ou assez unique?
Alors, ce qui fait quand même l'intérêt de la Nièvre par rapport à ce sujet, c'est l'importance des loges, anciennement mais toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie reste très active. Ça, c'est quand même assez singulier. Monsieur Citerne l'a dit tout à l'heure, hein, les 7 obédiences, donc les 7 organisations nationales qui structurent la franc-maçonnerie, ouais, sont représentées dans la Nièvre, 22 loges, donc plusieurs centaines de membres, c'est quand même beaucoup de personnes. Et puis ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on trouve des liens avec l'histoire plus particulière de la Nièvre, puisque dans une des premières loges de Nevers au XVIIIe siècle, il y a déjà une spécialité un peu avec beaucoup de faïenciers. En fait, donc il y a une loge entre guillemets d'artisans.
D'accord.
Donc voilà, il y a des connexions
là,
assez étroites. C'est des artisans très spécialisés,
oui,
les faïenciers.
Mais
c'est
quand
un
même
peu.
Quand même. Ouais, mais ça montre aussi, voilà, une histoire de Nevers qui perdure, qui est la faïence finalement, qui se retrouvait déjà dans cette histoire-là de la franc-maçonnerie. Voilà.
Et alors l'avantage aussi de cette exposition, c'est qu'on a, il a été mis un point, on n'a pas refait les faïences. Parce que la plupart des faïences maintenant, maçonniques, c'est des faïences pour faire des commémoratives, pour faire les 50 ans d'un atelier, l'avenue d'un inspecteur, les choses comme ça. Et là, c'est intéressant parce que c'est véritablement la faïence représentant symbole, les outils, l'évolution, et puis en plus les décors qui sont somptueux. Mmh, il y a des décors qui sont somptueux. Je pense que ça, c'est important. Et puis, voilà, je suis ravi de ce côté développement. C'est ça qui est important.
Et ouverture au grand public, au monde profane, finalement.
Eh bien, ouverture au grand profane. Moi, on dit qu'on ne doit pas se dévoiler. Bien, on ne doit pas dévoiler un frère, ou une sœur ou un frère. Parce que je tiens à dire une sœur ou un frère, plutôt que de dire un frère ou une sœur. C'est une chose maintenant avec... Mais on ne doit pas, on doit pas dévoiler. Mais rien n'interdit à un frère de se dévoiler. Voilà.
Oui.
Hein, de se présenter.
C'est votre volonté d'ailleurs pour le coup.
Si je m'étais pas présenté, j'aurais pas monté l'exposition, j'aurais rien.
Est-ce que vous avez hésité à le faire au début? Est-ce que vous auriez pu le faire en restant dans l'anonymat entre guillemets, de rester un petit peu en réserve?
Mais non, on peut, c'est comme si Marie-Lise avait monté l'exposition et puis restait derrière sans rien présenter, sans rien faire. Et c'est le cas de le dire, il faut un chef de troupeau. Mmh. Et vous savez que ce n'est pas facile de tout regrouper. Elle en a une expérience, hein, où chacun veut récupérer, chacun veut faire ci, chacun veut faire... Chacun a sa place et rester bien gentiment à sa place, aider. Et ça aussi, ça fait partie, tiens, de la construction de son temple intérieur. Moi, j'en ai assez des gens qui ont un égo surdimensionné, qui veulent donner des leçons à tout le monde. Alors, quand on entend les maçons qui veulent refaire le monde et tout, déjà, essayer de se construire et après on verra. C'est ça qui est formidable.
Bien sûr.
Et si on pouvait réussir, alors...
Cette expo, elle a commencé le 9 novembre. Vous y allez régulièrement?
Bah, j'essaie.
Vous y rendez régulièrement?
j'essaye d'être passé et j'ai demandé à des sœurs et à des frères de pouvoir servir un petit peu de guide, la mise au point qui a été faite vendredi, c'était extrêmement important.
Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant du début de cette exposition, du grand public qui s'y rend, leurs interrogations, leurs réflexions, leurs remarques, etc. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça pour l'instant ?
Eh bien, déjà, d'une part, ce que je retiens, c'est que, comme fréquentation, j'avais peur. C'est très correct. Il y a même des frères qui viennent, qui font des découvertes. Parce que ça aussi, c'est la transmission ne se fait pas toujours, c'est comme ailleurs.
Oui, bien sûr.
Et donc, pour le moment, ça m'apparaît très positif. Mais j'espère que pour le musée, parce que c'est quand même un musée qui est magnifique et qui mérite de vivre autrement qu'il a vécu jusqu'à présent.
Et c'est le cas avec cette exposition. On rappelle le nom de cette exposition, Franc-maçonnerie en Nivernais, histoire et symbole, une exposition importante pour le grand public à découvrir, bien sûr, parce que ça parle d'une partie de la France et de la Nièvre également. Françoise Hervé, justement, vous êtes élu à la culture pour la ville de Nevers, je le répète. C'est une exposition, je le disais, importante. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ça, sur le fait que c'est vraiment une exposition grand public.
Pour moi, en tant qu'élu à la culture, ce qui est fort intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle va pouvoir fidéliser les Neversois, le public nivernais, puisque justement on a fait en sorte que le sujet soit pas la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie dans la Nièvre, en particulier aussi à Nevers, qu'elle fidélise notre public qui vienne au musée, qui le découvre, et c'est cet aspect-là qui m'intéresse, puisque nous avons réouvert le musée un trimestre supplémentaire, il avait été fermé pour des raisons énergétiques. Et donc, moi, personnellement, ce sujet me tenait à cœur, parce qu'il y a le côté, effectivement, comme l'a dit Monsieur Sitter, comme l'a expliqué Marie-Lise Chevalier, toujours un peu le secret, un petit peu qui intrigue.
Ouais, bien sûr,
donc, je savais que c'était un bon sujet pour commencer. Et tellement bon que hier, on a un grand magazine, le Nouvel Obs, qui nous a proposé de faire une page sur nous, donc ce qui nous fait très plaisir.
C'est-à-dire qu'après Bac FM, c'est quand même énorme. Il y a Bac FM là, le Nouvel Obs juste en dessous. Franchement, c'est assez dingue.
Les médias. Et donc, on est ravis parce que justement, plus la diffusion de cette exposition se fera, plus le public d'abord sera initié, intéressé, viendra, et notre musée sera connu. Et moi, c'est ce que je veux. C'est uniquement ce que je veux en tant qu'élu.
Quand vous recevez une proposition de la sorte, est-ce qu'il y a quand même cette question qui se pose à vous de la marge de risque par le sujet ? Est-ce que, naturellement, vous vous posez quand même la question ou pas ?
Bien sûr, mais l'exposition est gérée de manière intelligente. On a tous travaillé dessus, on a tous pensé à ce qu'il fallait dire, ne pas dire, comme on vous l'a expliqué.
Ouais, bien sûr.
Et donc, à partir de là, chacun est dans son rôle et il n'y a pas de problème. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la curiosité des gens, parce que même des gens initiés, on a, parce que je tiens quand même à le dire, Marie-Lise a réussi à faire venir de la charité un tapis, n'est-ce pas Marie-Lise ? Alors, explique quand même une minute ce que c'est,
oui.
qui est très fragile, qui ne se déplace jamais.
Oui, il s'agit en fait d'une dalle gravée qui mesure à peu près 140 cm de long. Elle est en ardoise. C'est un objet magnifique donc qui prenait place au centre d'un temple, sur le sol. Et alors, en fait, malheureusement, elle était dans une réserve et elle passait pas la porte, en fait.
D'accord,
voilà,
okay,
donc
oui,
on a dû faire quelques manipulations.
Voilà. D'accord, oui. Ouais. Donc, on vulgarise comme ça des choses qui ne sortent jamais et ça permet à tous les gens qu'on veut toucher ou tous les publics intéressés de venir les découvrir. Et d'ailleurs, je remercie aussi tous les autres conservateurs de musées qu'on n'a pas évoqués, mais Varzy, La Charité, tous ces musées qui ont travaillé avec nous. Et ça, c'est très bien parce que moi, c'est cette coopération que je vois. On va prêter bientôt une pièce, un tableau à Versailles pour leur prochaine exposition sur le Grand Dauphin. On commence à prendre une autre dimension. Ouais. Et ça, c'est l'intérêt que je vois pour nous, pour la ville de Nevers.
Pour le musée de la faïence, bien sûr.
Mais le comment l'ardoise, comme Alice, c'est ce qu'on appelle un tapis de loge.
Ouais.
D'accord.
Et dessus, il est couvert de symboles.
Oui.
Donc, on pourrait passer une heure à le décrire. Et en plus de ça, c'est sa présentation. Mais il y a des gens qui n'y ont pas fait attention. C'est qu'il est sous la voûte étoilée. Il y a une voûte bleue avec des étoiles qui est magnifique.
Et qui se reflète dans le tapis.
Ça, c'est une présentation splendide. Et en plus de ça, sur le damier. Blanc, noir et qu'une signification aussi. Ah, mais on pourrait faire une
exposition sur le tapis.
Oh non, mais on pourrait faire de toute manière, oui, une émission qui pourrait durer des heures et sans rien dévoiler, mais tout simplement expliquer le caractère profond. Alors c'est ce qui fait aussi hésiter des gens, parce qu'il y a des gens qui comprendraient pas, alors si on initie une personne. Pour moi, c'est pas s'initier comme franc-maçon pour dire après, pour porter sur sa carte de visite, je suis franc-maçon. Pour moi, c'est quelque chose de très important et de transmettre et d'essayer effectivement de faire comprendre aux gens que c'est pas la peine d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup diplômé, c'est de se concentrer en soi puis de vouloir se construire.
Bien sûr, bien sûr. Quelques chiffres sur cette exposition rapidement. Combien de pièces à peu près?
Alors, à peu près 80.
D'accord. Avec des histoires relativement différentes les unes des autres, bien évidemment, comme vous l'avez expliqué sur ce tapis. Il aurait pu y en avoir plus. Il y a eu un filtre de faits, une sélection, j'imagine.
Alors, il n'aurait pas pu y en avoir un seul de plus dans l'espace d'exposition. Déjà, on est comble.
On est blindax.
Mais en revanche, oui, bien sûr, il aurait pu y en avoir beaucoup d'autres. La sélection, elle est quasiment sans fin. Mais je crois qu'on arrive à une forme de représentativité, parce qu'on l'a dit, il y a des faïences, mais il y a donc aussi des décors qui sont des éléments, en fait, de costumes qui sont portés pendant les tenues, donc du textile qu'on voit rarement quand même. On a aussi des documents, on va avoir aussi des médailles, etc. Donc des choses très variées.
Est-ce qu'il y a une volonté derrière cette exposition, peut-être qu'elle se déplace par la suite en France, peut-être, pourquoi pas, que cette franc-maçonnerie en Nivernais, Histoire et Symbole, hein, c'est ça le titre, si je ne me trompe pas, c'est ça, Histoire et Symbole, puisse aller dans d'autres départements, pourquoi pas?
Si ça pouvait se faire, je ne pense pas que le musée refuserait. Il y en a qui pourraient refuser, c'est les propriétaires des objets.
Oui, bien sûr.
Il est bien évident que je pense qu'il ne refuserait pas. Et ça serait encore une publicité beaucoup plus grande pour le musée de Nevers, être capable de faire une exposition itinérante.
Qui permette d'encore plus démocratiser ce propos et d'expliquer au plus large public, bien sûr.
Je pense que c'est vrai que ça a dû être déjà fait par une exposition.
L'exposition sur la faïence et le vin s'est déjà déplacée.
Ouais. Hein,
Marie-Lise,
oui, ça a été le cas sur d'autres thèmes, ouais, bien sûr.
Donc, elle s'est déjà déplacée et donc d'autres musées l'ont accueillie. Donc, c'est tout à fait intéressant, effectivement, pouvoir vulgariser ces expositions.
Alors, ce qu'il y a qui est bien dans ces expositions, c'est qu'il y a eu des panneaux de faits très, très bien expliqués, simples. C'est pas la peine d'avoir fait l'ENA pour le comprendre.
ça m'arrange pour le coup. Ce qu'il faut savoir sur cette exposition, les dates, les heures à laquelle on peut s'y rendre, on va clôturer là-dessus.
Oui, alors, l'exposition temporaire est donc accessible jusqu'au 31 décembre. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 13h à 18h. Et puis j'en profite pour dire qu'on proposera des ateliers pour les jeunes autour des symboles. Donc il y a plusieurs dates qui sont proposées, notamment pendant les vacances de Noël. Et il y aura aussi de nouveau une visite possible en nocturne le vendredi 6 décembre, premier vendredi du mois, où le musée est toujours ouvert tardivement.
On peut retrouver de toute façon toutes ces informations sur le site internet de la ville de Nevers et les réseaux sociaux aussi.
Sur le musée sur journal régulièrement.
De la faïence. Et sur le journal régulièrement.
Sur le journal régulièrement. On a un soutien là qui est formidable.
Qui est fort. Et puis Bac FM, c'est quand même pas mal. Hein. Oui. On va pas se mentir.
Oui, c'est ça. Je voulais aussi... je voulais vous le remercier parce que on est là, franchement, je dois dire... que Faïence 6000 a été gâté.
Bah oui, c'est vrai, en tant que président, vous en êtes content. Je voudrais vous remercier d'être venu ici dans les locaux parce que vous avez en plus réussi à expliquer un propos qui n'est pas forcément simple à parfois entendre, comprendre, que vous avez pu le vulgariser assez facilement. Et donc c'était assez intéressant, c'est vrai.
Et surtout, pour ne pas avoir de reproches de mes sœurs et de mes frères.
Ah, bah oui, parce que sinon, vous savez, des conflits familiaux, c'est quand même pas simple à gérer après. Hein.
Vous avez raison.
On va pas se mentir, ça arrange pas les repas de famille. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous demain à 10h30 sur Bac FM, ici sur cette même antenne, pour parler cinéma. C'est notre premier rendez-vous de demain matin. Je serai avec Manuel et Laetitia. Action, c'est demain en direct à 10h30. À demain.
Merci.
Merci. Au revoir.